Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal présenté par Patience Ngalula Mbombo. À la une de cette session d'actualité, Congolais et Zambiens reprennent désormais leurs activités d'import et d'export. Les deux pays ont signé l'accord de rouverture des frontières fermées depuis quelques jours hier lundi dans la soirée. Reprise des activités socio-économiques et professionnelles ce mardi dans les villages Rukoko et ses environs au nord de la ville de Goma. Ce après des violentes manifestations de jeunes hier lundi après une série de fusillades des civils par des hommes armés dans la zone. L'invité de ce journal est le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Damien Twambilangane revient sur la reprise des activités de construction du micro-barrage Chute Mbombo au Kasaï central par sa structure. Bonsoir à toutes et à tous. Les frontières entre la RDC et la Zambie qui étaient fermées à l'import et à l'export sur décision du gouvernement zambien sont de nouveau réouvertes dès ce mardi matin. L'accord entre les deux parties est intervenu ce lundi à Lubumbashi tard dans la soirée. Zambiens et Congolais ont accordé une dérogation spéciale de 30 jours collectivement à tout opérateur économique qui avait déjà passé les commandes des produits visés par la mesure des sauvegarde. Ils peuvent donc faire entrer leurs marchandises en RDC sans restriction aucune. Jean Gandou pour les détails.
La RDC s'est engagée à autoriser l'entrée sur son territoire les marchandises qui étaient frappées d'interdiction pour la sauvegarde de son économie. Le ministre congolais du commerce extérieur explique ce que d'aucuns considèrent comme un rétropédalage du gouvernement congolais dans ce dossier. Julien Paluku.
Il n'y a pas eu de recul par rapport à nos décisions. Nos décisions sont d'ailleurs réconfortées par la décision zambienne de ne plus accepter que des marchandises à destination de notre pays soient ouvertes sur son sol. Tous les autres produits zambiens qui sont d'origine zambienne, comme nous avons un accord avec eux, et ont un libre passage en respectant bien sûr les droits des douanes qui sont prévus par notre législation. Et je vous annonce que les transbordements faits dans tous les pays qui nous entourent nous privent de près de 5 milliards de dollars chaque année.
Pour sa part, la Zambie s'est aussi engagée à garantir la libre circulation des marchandises en transit vers la RDC, conformément aux dispositions de l'Organisation mondiale du commerce sur les échanges commerciaux. Elle a aussi insisté que la RDC respecte les accords qui lient les deux pays en matière de commerce extérieur. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Justement, les trafics commerciaux ont bel et bien repris aux différents postes frontaliers de la RDC et de la Zambie après la décision de réouverture des frontières à l'import et à l'export. À la frontière des Mokambo, dans les territoires de Sakania par exemple, tout est redevenu normal, comme l'a constaté les coordonnateurs de la société civile dans ces territoires. On écoute Jean Olondo, joint par Jean Gandou.
Nous avons constaté que ce matin, la frontière est ouverte, il n'y a plus d'encombrement, tous les véhicules passent sans problème. Tout est en ordre et puis les prix n'ont pas augmenté, les histoires passent sans problème. Mais nous demandons au gouvernement pour qu'il puisse arranger le climat des affaires. Donc nous avons besoin à ce que ces entreprises-là puissent voir le jour ici au Congo, de telle sorte que certains produits qui viennent de pays voisins s'échappent au contrôle. Et lorsque ces entreprises-là vont voir les jours ici, nous aurons à assurer les contrôles. Puis il y aura aussi le problème des taxes que va gonfler le chiffre d'affaires. Et en plus de ça, les enfants du milieu vont en profiter et auront quand même du travail. C'est ce que nous demandons à notre gouvernement pour ce genre de situation, que nous ne voulons plus que ça puisse se reprendre.
Pendant ce temps, au Kasaï oriental, baisse des prix du ciment gris en Mbujimayi. Vendu autrefois à 30 $, les sacs de ciment gris se négocient actuellement entre 22 voire 23 $ américains. Les importateurs de cette marchandise parlent de l'abondance du ciment gris sur les marchés de Mbujimayi pendant cette période des saisons sèches. Des explications avec Esther Ndalafina.
Plusieurs dépôts de Mbujimayi sont inondés de sacs de ciment gris qui proviennent soit de Kinshasa, de Likasi dans le Haut-Katanga ou encore de Kolwezi dans la province de Lualaba. Ces cargaisons de ciment sont pour la plupart acheminées en Mbujimayi par véhicules qui profitent de la saison sèche et d'autres par bateaux de Kinshasa à Ndomba dans le territoire de Kabiakamwanga en passant par la ville de Lusambo dans la province du Sankoro. Actuellement sur le marché de Mbujimayi, le sac de ciment gris se négocie chez les importateurs entre 20 et 21 dollars. Nombreux disent travailler à perte.
Nous avons beaucoup de sacs de ciment dans les dépôts. Nous cherchons seulement des clients.
Malgré cette baisse, les revendeurs affirment ne pas faire de bonnes affaires.
J'ouvre les dépôts à 8h, je ferme même à 16h vers 17h. Pour vendre même un sac, vraiment, c'est difficile.
À la Fédération des entreprises du Congo, l'on souhaite que le prix des ciments soit stable. Dominique Ilunga, directeur provincial de la FEC.
Nous aimerions que la situation continue. Et pour cela, nous soutenons l'action du chef de l'État de réhabiliter toutes nos routes.
D'après certaines indiscrétions, les importateurs occasionnels de cette marchandise sont également à la base de la baisse du prix des ciments gris sur le marché. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Rentrée scolaire 2023-2024, aucun acompte des frais scolaires ne doit être exigé avant la rentrée scolaire. C'est l'une des 5 mesures contenues dans la note de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté du 7 août. Document adressé aux directeurs provinciaux de ces secteurs avec copie à tous les responsables de l'éducation. Cette note vient corriger plusieurs pratiques qui se sont érigées en système dans beaucoup d'écoles. La ministre accorde par exemple la liberté aux parents d'acheter les fournitures scolaires, uniformes et autres tenues d'éducation physique au marché de leur choix. L'achat obligatoire dans les écoles n'est donc plus d'émise. Et puis, la Cour des comptes condamne Joseph Ilondo, directeur général de la Metelsat, à payer une amende de 27 500 000 francs congolais ainsi que les frais d'instance. Elle le déclare coupable des fautes de gestion pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de 5 200 $, soit 3 100 $ pour lui-même et 2 100 $ pour Mme Ngondo Mukanya. C'est ce qui ressort de l'arrêt rendu par la Cour des comptes à son audience publique de ce mardi en matière de discipline budgétaire et financière statuant au premier degré. Il s'agit là d'un troisième arrêt que l'Institution supérieure des contrôles des finances publiques et des disciplines budgétaires rencontre la faute de gestion. Tout récemment, elle a eu à infliger la même sanction à 2 comptables publics. Au Nord Kivu, les activités socio-économiques et professionnelles reprennent normalement ce mardi matin dans les villages de Rukoko ainsi que dans les quartiers voisins de Majengo et Buhene. C'est au nord de la ville de Goma. Les jeunes qui tentaient encore de barricader la route ont été vite dispersés par les forces de l'ordre. Ceci fait suite à des violentes manifestations hier lundi après une série de fusillades des civils par des hommes armés et en tenue militaire dans la zone. Au moins 3 civils ont été tués et 5 autres blessés. Les points avec Gabriel Ouamenia.
Boutiques, magasins et stations-service ont ouvert ce mardi matin. Les trafics urbains au Grand Carrefour, communément appelé Bon Voyage, déserté hier, a été pris d'assaut depuis les petites heures du matin de ce mardi par les voyageurs et les motocyclistes. Les vendeurs à la criée, les colporteurs, circulent et les mécaniciens voient que normalement à leurs activités. La société civile de Niragongo qui confirme la reprise totale des activités précise que les nouvelles manifestations que voulaient organiser les jeunes ce matin ont été étouffées dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité toujours présentes dans la zone. Par ailleurs, les auteurs présumés du meurtre des 2 personnes acquis ici, dans les villages de Rukoko, ayant conduit aux manifestations d'hier lundi, ne sont toujours pas connus. Des sources proches de l'armée affirment que les enquêtes se poursuivent pour rechercher les coupables présumés du crime ayant coûté la vie à 2 jeunes et blessant 5 autres civils. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
En Ituri, la population des localités lacustres frontalières avec l'Ouganda doivent être vigilantes pour barrer la route à l'ennemi de la RDC, dont les rebelles du M23. Cet appel a été lancé par la délégation mixte du Comité de sécurité des territoires de Djougou et Irumu, qui a clôturé sa mission dimanche dans 6 entités aux îlots et à la plaine du lac Albert. L'objectif de cette randonnée était d'évaluer la situation sécuritaire par rapport aux alertes sur l'infiltration des hommes armés qui seraient des connivences avec le M23. Isaac Remoyope.
Cette délégation conduite par les administrateurs des territoires de Djougou et Irumu s'est rendue dans les localités de Rukwanzi, Matete, Semuliki 3, aux îlots à la frontière avec l'Ouganda et d'autres localités lacustres dont Chicha, Chiritsi et Malonga. Ces autorités ont exhorté la population composée essentiellement des pêcheurs à aiguiser la vigilance pour éviter l'infiltration des rebelles du M23 et leurs alliés qui ont envahi la RDC, mais aussi de promouvoir l'unité et la cohésion sociale pour faire échec au plan de l'ennemi qui est de diviser les communautés locales pour déstabiliser les pays. Les membres du comité territorial de sécurité des deux entités ont recommandé aux habitants de dénoncer tout mouvement suspect et toute personne qui détient illégalement les armes et d'ajouter que le gouvernement a déjà pris des dispositions nécessaires pour la sécurisation de ses citoyens et des frontières. Des militaires sont déployés notamment vers Bourassi et Kaliabougongo dans les territoires d'Irumu. L'administrateur du territoire de Djougou a également tenu un meeting populaire vendredi à Tchomia pour sensibiliser la population à collaborer avec les services de sécurité en envie de dénicher les suspects. Pour rappel, 11 personnes en provenance de l'Ouganda ont été arrêtées dimanche à Tchomia Bounia. Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Les commandants de la 22e brigade des réactions rapides a clôturé ce lundi sa tournée d'inspection et d'évaluation de la situation sécuritaire à l'intérieur de la province du Tanganyika. Les services de communication des forces armées annoncent que le général Dunia Kashindi s'est rendu à Manono, Kabalo et Nyunzu. Il a tenu des parades avec les militaires et interdit leur présence le long des barrières et dans les carrières minières. Les détails avec Paulin Munanga.
Dans son adresse, le commandant de la 22e brigade force de réaction rapide instruit les militaires de travailler dans le strict respect de la discipline et règlement militaire, rapporte les services de communication et information des forces armées. Le général Dunia Kashindi interdit la présence des militaires au niveau des barrières où chaque passage est conditionné par le paiement de l'argent afin d'éviter la tracasserie tant décriée par la population. Il interdit aussi la présence des militaires dans des carrières minières. Général Dunia Kashindi.
Nous n'accepterons pas. C'est la cause pour laquelle je me suis déplacé, que je puisse voir les conditions dans lesquelles les militaires vivent, les conditions dans lesquelles les populations vivent, leurs plaintes que nous avons et faire taire tout ce qu'il y a.
Le service de communication et information des forces armées signale l'activisme de certains groupes insurrectionnels issus d'une coalition pygmée bantou armée de flèches et armes à feu dans les groupements Kalamata, Mambwe et Nyembwankunda dans les secteurs de Louvois, territoire de Manono. Le service de communication annonce que les FARDC envisagent une opération d'envergure dans les prochains jours pour imposer l'autorité de l'État dans certaines parties de la province du Tanganyika. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
À Kinshasa, Maluku, l'une des communes frontalières avec le Congo-Brazzaville, peine à s'en sortir. Parmi les difficultés que rencontrent les habitants de ces coins, l'insécurité et les manques de transport viennent en tête. Étant à la frontière, des patrouilles sont organisées chaque soir par les services de sécurité. Mais là où les bas blessent, c'est que ces patrouilles sont devenues presque un gagne-pain pour certains de ces agents. S'agissant des transports, les déplacements vers Pascal et les centres-villes, par exemple, est un véritable parcours des combattants. Miradim Fouengi et Arcel Kajourou se sont rendus sur place. Suivez leur reportage.
Pas facile de vivre à Maluku. Chaque jour, les habitants font face au manque d'électricité, de l'eau, mais surtout des tracasseries perpétrées par les agents de sécurité, notamment la police, les militaires et autres. Témoignage.
En ce moment, parmi ceux qui nous arrêtent, il y a le JR. La police, à 19h, quand ils nous arrêtent, ils nous demandent 50 000 francs congolais. Ce sont des soldats maintenant qui créent l'insécurité. Ils peuvent nous croiser la nuit, ils nous arrêtent et arrachent tout ce que nous avons.
La rareté et le coût de transport en commun est un autre casse-tête pour la population de Maluku.
Que les autorités nous laissent le transco à Maluku pour nous faciliter les déplacements. Le transport privé taxe les prix selon eux, plus ou moins 12 000 francs.
Face à ces deux préoccupations soulevées par ses administrés, les bourgmestres de Maluku expliquent. Alexis Munduni.
je vais interpeller le commandant pour donner l'instruction à ces éléments de la police de ne plus confisquer les choses d'autrui. C'est la situation du transport, ce n'est pas seulement Malou. Je fais seulement les rapports à mes hiérarchies pour résoudre les problèmes de transport. Les bourgmestres ne dirigent pas la commune seule.
Malgré toutes ces difficultés, les habitants de Maluku, qui par moments peinent à croire qu'ils font partie de Kinshasa, se débrouillent pour tenir le coup.
Actualité internationale. Aujourd'hui est une journée sans presse au Sénégal, mesure décidée par le représentant des médias pour alerter notamment sur leur situation financière. Les gouvernements réclament le paiement des arriérés d'impôts, une dette fiscale que l'ancien président Macky Sall avait promis d'effacer jusqu'en décembre 2023. Mais la mesure n'avait jamais été appliquée. D'après certains membres du secteur, ces contraintes financières pourraient conduire à plusieurs fermetures des journaux.
L'invité.
Le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain est notre invité. Damien Toimbilangane revient sur la construction du micro-barrage Chute Mbombo au Kasaï central. Il a conduit les équipes qui doivent finaliser les études d'ici 3 mois et mener les travaux d'aménagement de la route en direction du site. Il indique qu'Anser a repris la main sur ces projets qui étaient pilotés par les Beseco et promet que les travaux de la construction de ces micro-barrages seront finalisés dans 2 ans. Damien Toimbilangane s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Damien Toimbilangane, bonjour.
Bonjour.
Les travaux de Chute Mbombo, où en est-on aujourd'hui avec ce projet?
Nous avons déjà une feuille de route et cette feuille de route a prévu effectivement qu'on fasse la descente sur le terrain avec les différentes délégations constituées des entreprises, le bureau d'études qui devrait désormais accompagner le projet de la centrale hydroélectrique de Mbombo.
Il y a eu beaucoup de choses autour du projet, les travaux confiés au Beseco. Actuellement, comment ça se passe? C'est Anser qui pilote le projet, c'est que c'est factuellement c'est des études, la première pierre a été posée, mais jusqu'à maintenant, rien n'est fait sur les sites. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, effectivement, la première pierre avait été posée, nous étions là d'ailleurs, hein, mais aujourd'hui, je confirme qu'on avait un protocole d'accord avec le Beseco, mais qui est obsolète depuis l'instruction du président de la République qui nous donne le mandat de pouvoir mobiliser des moyens financiers pour les projets et d'implémenter ce projet jusqu'au bout, vu que c'est la mission de l'Anser de pouvoir électrifier les zones rurales et périurbaines au moyen des différentes technologies, dont l'hydroélectricité, comme c'est le cas pour Mbombo. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle feuille de route qui veut que nous puissions avancer. Nous allons finaliser les études d'ici 3 mois. Avec le Beseco, il y avait déjà des études qui avaient déjà commencé à être entamées, mais c'est limité à un niveau sommaire. Nous poursuivons les études avec le bureau d'études qui a été mobilisé, Hydrogénie, hein, c'est le professeur Fomba, et nous pensons que d'ici 3 mois, ces études seront terminées. Mais nous n'allons pas attendre la fin des études, nous sommes en train de faire parallèlement beaucoup d'autres activités. Nous sommes venus, par exemple, avec des experts en rapport avec les routes. Il y a un bureau d'études qui était là pour la route, la voie d'accès. Ils étaient sur le site avec nous. Ils ont dû analyser tous les différents axes routiers pour faciliter l'accès vers le site. Et nous avons levé l'option sur l'axe qu'il faudrait. Et ils sont déjà en train de travailler sur l'étude. Donc, ils nous ont promis que dans 2 mois, ce serait terminé. Ça nous permettra alors d'entamer déjà les travaux pour la construction de la route qui va faciliter l'accès de matériaux. Nous sommes venus aussi avec le bureau d'études qui a l'architecte, enfin le cabinet d'architecture, dont la mission est de nous faire un plan sur la base vie. La base vie que nous voulons maintenant, c'est pas une base vie classique, c'est une base vie qui ressemblerait à une petite cité, de manière à ce que après les travaux, c'est une petite cité qui va se développer pour que finalement la vie puisse renaître dans les villages. Mais nous sommes aussi venus avec des experts socio-économiques qui sont en train d'étudier l'implémentation d'un zoning industriel. Ce projet est intégré. On va et construire le barrage pour l'énergie et construire une zone économique spéciale pour des petites industries, pour la consommation de cette énergie et créer de la richesse.
La population attend voir la première lampe s'allumer. À ce point, qu'est-ce qu'il faut promettre? Dans combien de temps la population va voir cette lampe s'allumer?
Je réitère mes excuses lors de l'échange citoyen. J'ai personnellement demandé pardon à la population du centre kassaïen parce qu'effectivement, il y a eu trop de va-et-vient ici, il y a eu beaucoup de promesses, même dans lesquelles nous-mêmes nous étions impliqués, mais voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. Nous réitérons encore ces excuses auprès de la population centre kassaïenne pour tous ces retards connus. Maintenant, nous avons résolu que la feuille de route actuelle nous met 2 ans. D'ici 2 ans maximum, nous aurons terminé tous les travaux et nous aurons déjà donné les premiers kilowattheures de la centrale de Mbombo. Nous sommes venus d'ailleurs sur le site avec la société CGCD et qui est en groupement avec ACCC, la société issue de SACIM, pour la construction de la centrale hydroélectrique. C'est eux qui ont construit la centrale hydroélectrique de Movo en Bougema et du côté de Miabi, et c'est eux qui ont construit aussi la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi.
Alors qu'est-ce qui rassure cette fois-ci?
Ce qui rassure, c'est que nous sommes déterminés, nous avons une feuille de route, nous avons des entreprises sérieuses et surtout nous avons un partenaire financier, parce que vous savez, même le blocage aussi du BCECO a été d'ordre financier. Donc aujourd'hui il y a un partenaire financier, c'est un partenaire financier congolais de Arc-en-Ciel, c'est le nom de l'entreprise, et nous avons signé le protocole d'accord, on a signé les accords de financement. En tout cas, c'est un financement qui a été sécurisé, c'est ça qui nous rassure que maintenant nous pouvons aisément commencer les études, atterrir aisément avec les travaux sans perturbation. La deuxième chose qui rassure, c'est les contacts que nous avons eus avec le gouverneur. Le gouverneur de la province s'est montré très ouvert, très engagé dans ce projet.
Monsieur Damien Toambilangani, nous vous disons merci.
Merci à vous.
Et c'est par ici que nous bouclons cette session des nouvelles vespérales sur Radio Kapi. Merci à Debs Vita qui l'a mise en onde. Merci également à Pelé Kipela Mondo qui l'a supervisé et coordonné. Patience Ngalou Lambombo, c'est moi, je vous l'ai présenté. Merci à vous tous de nous avoir suivis.